embellie. Que des dégaines crimi. Fessé sur son chigné.
Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougou avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire en cette matinée du lundi 19 août. Le gouvernement soudanais annonce l'envoi d'une délégation au Caire. Objectif, discuter de l'application d'un accord humanitaire signé en 2023 entre l'armée et les paramilitaires. 95 Libyens arrêtés fin juin dans un camp militaire clandestin présumé en Afrique du Sud expulsé. Annonce faite par le ministère de l'Intérieur. Et puis les pluies qui se sont abattues sur Bamako, la capitale malienne, toute la journée du samedi ont fait d'énormes dégâts, surtout dans la commune 6.
Nous n'avons pas d'habits à nous mettre. Tout est mouillé. C'est comme ça que nous avons passé la nuit, les pieds dans l'eau. Nous sommes ici depuis un an, mais même ceux qui sont ici depuis 30 ans disent n'avoir jamais vu une telle montée des eaux.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition. Kamala Harris est arrivée hier à Chicago, où commence aujourd'hui la convention du Parti démocrate. 9e visite du patron de la diplomatie américaine au Moyen-Orient. Anthony Blinken est en Israël pour une nouvelle poussée diplomatique en faveur d'un cessez-le-feu entre le Hamas et l'État hébreu. En sport, début le week-end écoulé, des rencontres préliminaires des compétitions interclubs sur le continent. Davantage dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Le gouvernement soudanais a annoncé dimanche qu'il allait envoyer une délégation au Caire en Égypte pour discuter de l'application de l'accord humanitaire, un accord signé en 2023 entre l'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
L'armée soudanaise, qui boude des négociations à Genève sur un cessez-le-feu, va participer à celle du Caire, selon un communiqué du Conseil de souveraineté au pouvoir à Khartoum. Cette décision est basée sur des discussions avec le gouvernement américain, représenté par l'émissaire des États-Unis au Soudan, Tom Perriello, et avec le gouvernement égyptien qui a demandé à rencontrer une délégation gouvernementale au Caire, a indiqué le communiqué. Au Caire, la délégation gouvernementale va discuter de la mise en œuvre de l'accord de Jeddah en Arabie Saoudite qui prévoit des passages sécurisés aux civils ainsi que l'acheminement de l'aide humanitaire. La guerre oppose depuis avril 2023 l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Les combats qui ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé un cinquième de la population se poursuivent sans relâche malgré les efforts de médiation en cours.
Le vice-président ghanéen Mahamoudou Bawumia, candidat du parti au pouvoir, le nouveau parti patriotique NPP, à la présidentielle de décembre, a organisé hier son premier grand meeting de campagne à Takoradi, dans le nord du pays. Il a promis de mener des réformes économiques pour créer des emplois. Le Ghana connaît sa plus grave crise économique depuis des décennies, marquée notamment par une inflation galopante et une augmentation du chômage chez les jeunes. Selon les experts politiques, l'élection présidentielle s'annonce serrée entre Bawumia du NPP et l'ancien président John Dramani Mahama du Congrès national démocratique NDC, parti d'opposition. 95 Libyens ont été expulsés dimanche de l'Afrique du Sud. Ils ont été arrêtés à la fin juillet dans un présumé camp militaire clandestin, selon le ministère sud-africain de l'Intérieur. Lionel Gaïma.
Les 95 hommes ont quitté l'Afrique du Sud à partir de l'aéroport international Kruger-Mpumalanga, d'après les médias locaux. Ce vol a été affrété par le gouvernement libyen, avait assuré plutôt le ministère sud-africain de l'Intérieur dans un communiqué. Ils ont été arrêtés le 26 juillet dans un camp d'entraînement militaire clandestin dans la province de Mpumalanga, à la frontière avec le Mozambique et les Swatini. D'après la police, ils sont entrés sur le territoire en avril avec des visas délivrés dans le cadre d'une formation d'agents de sécurité. Toutefois, ils étaient soupçonnés par les policiers sud-africains de recevoir un entraînement militaire. Leur visa, délivré à Tunis de manière irrégulière et sur la base de fausses déclarations, ont été annulés par les autorités sud-africaines. Je félicite les responsables du ministère et autres membres des forces de l'ordre qui ont travaillé sans relâche pour permettre une expulsion rapide, a dit le ministre de l'Intérieur, Leon Schreiber, dans le communiqué. Nous continuerons à employer toutes les ressources à notre disposition pour faire en sorte que les lois du pays sur l'immigration soient respectées, a ajouté M. Schreiber.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Kamala Harris est arrivée hier à Chicago où débute ce lundi la convention du Parti démocrate. La vice-présidente entrée en course après le retrait de la candidature de Joe Biden en juillet est assurée d'être investie lors de cette convention qu'elle va conclure jeudi par un discours. Au moins 50 000 personnes déléguées, bénévoles, partisans sont attendus à Chicago. Avant son départ pour Chicago, justement, la candidate de 59 ans a sillonné en bus la Pennsylvanie, un état clé convoité par la démocrate comme par son rival républicain. Donald Trump y était samedi et il retourne ce lundi, dans cet état où il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat en juillet. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé hier soir à Tel Aviv, sa 9e visite dans la région depuis le début de la guerre. Il doit être reçu aujourd'hui par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a appelé hier à faire pression sur le Hamas plutôt que sur Israël en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Le point avec Alexandrine Holoyon.
Blinken sera reçu ce matin par Netanyahou et va aussi s'entretenir avec son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le président israélien, Isaac Herzog, avant de se rendre au Caire demain mardi. Netanyahou a appelé hier à diriger la pression sur le Hamas et non vers le gouvernement israélien, dénonçant un refus obstiné du mouvement islamiste palestinien de conclure une trêve à Gaza. Les États-Unis ont soumis vendredi une nouvelle proposition de compromis après 2 jours de discussion à Doha, qu'ils doivent reprendre la semaine prochaine au Caire. Le Hamas, qui n'a pas participé aux négociations à Doha, a accusé Israël d'avoir ajouté de nouvelles conditions, dont le maintien de ses troupes à la frontière de Gaza avec l'Égypte. Washington veut obtenir un cessez-le-feu pour éviter une extension du conflit. L'Iran et ses alliés ont menacé de riposter à l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, le 31 juillet à Téhéran, et celui de Fouad Chokr, chef militaire du Hezbollah libanais, tué la veille dans une frappe israélienne près de Beyrouth.
Le président Joe Biden a jugé hier qu'une trêve à Gaza était toujours possible et a assuré que les États-Unis n'abandonnaient pas leurs efforts lors d'un bref échange avec la presse. Kiev a affirmé hier avoir détruit un deuxième pont important pour les forces de Moscou dans la région russe de Koursk, où ses troupes mènent depuis 12 jours une offensive ces derniers jours. L'armée ukrainienne a dit ancrer ses positions dans cette région tout en avançant progressivement, d'après le président Volodymyr Zelensky. Moscou, de son côté, a répété dimanche repousser les assauts ukrainiens grâce à des renforts et infliger de lourdes pertes à son adversaire au moment où le président Vladimir Poutine est arrivé hier à Bakou en Azerbaïdjan pour une visite d'État. La légende du cinéma mondial Alain Delon, acteur français légendaire, s'est éteint hier à 88 ans, suscitant une vague d'émotion en France et dans le monde. Le point avec Claire Morin-Gibault.
Monsieur Klein ou Rocco, le guépard ou le samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires et fait rêver le monde, a réagi le président Emmanuel Macron, qui a salué un monument français. Sa disparition creuse un vide abyssal que rien ni personne ne pourra combler, selon Brigitte Bardot, dernière légende vivante du 7e art français. L'acteur a vécu ses dernières années dans sa propriété de Douchy dans le Loiret et souffrait d'un lymphome. Devant sa maison, des dizaines de personnes sont venues déposer des fleurs. Le bal est fini, Tancredi s'en est allé danser avec les étoiles, a réagi Claudia Cardinal, sa partenaire dans Le Guépard, sorti en 1963. En hommage à l'acteur, plusieurs chaînes ont bouleversé leur grille, dont France 2 qui a diffusé Le Samouraï, puis La Piscine, alors qu'à Paris, plusieurs salles de cinéma ont diffusé Le Guépard. De rivalité en rare collaboration, Borsalino en 1970 et Une chance sur deux en 1998, la carrière de Delon se construit parallèlement à celle d'un autre monstre sacré du cinéma français, son ami Jean-Paul Belmondo. Mais si l'acteur Delon était très admiré, il a souvent été critiqué pour ses prises de position en faveur du leader d'extrême droite Jean-Marie Le Pen pour la peine de mort ou contre l'homosexualité.
Et justement, pour compléter cette nouvelle de Tokyo à New York, la presse internationale a aussi rendu hommage ce lundi à Alain Delon, grand acteur et grand réactionnaire, résume le quotidien italien La Repubblica à propos d'un personnage ambivalent. Il Corriere della Sera loue un acteur star beau et maudit érigé au rang de légende, beau et hypnotique. Alain Delon était l'une des stars les plus mystérieuses du cinéma, écrit le critique du Guardian britannique Peter Bradshaw. Le New York Times décrit un homme intense et intensément beau, une star internationale courtisée par les plus grands cinéastes de son temps. Le plus bel homme de l'histoire du cinéma, résume le New Yorker. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nathalie Bache.
Le Nigeria a lancé un programme de modernisation de son parc de véhicules commerciaux avec 30 bus fonctionnant au gaz naturel comprimé. Ce premier lot inauguré sera complété par d'autres véhicules similaires. Le gouvernement veut convertir 1 million de véhicules au GNC d'ici 2027 et construire des centres de conversion et des stations de recharge. Au Togo, la quatrième édition du Miento, le marché international de l'artisanat du Togo, se tiendra du 23 avril au 4 mai 2025. L'événement se déroule habituellement sur l'esplanade du Palais des Congrès à Lomé. L'édition 2023 avait connu la participation de plus de 800 exposants de divers pays tels que le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Burkina Faso, le Bénin et le Mali, alors pays invités d'honneur. Le groupe Ethiopian Airlines a attribué un contrat au cabinet d'architecture Sidara pour construire un méga aéroport à Bishoftu, à 40 km d'Addis Abeba. Le complexe aéroportuaire de 6 milliards de dollars sera le plus grand aéroport d'Afrique avec une capacité annuelle de 100 millions de passagers. Les installations qui seront développées sur 35 km² comprendront 4 pistes d'atterrissage, un parking pour 270 avions et des infrastructures commerciale et hôtelière.
Et comme chaque lundi matin, les nouvelles sportives nous viennent de Bouikon au Bénin. Nous retrouvons Élisée Oukpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Yakuba et bonjour à tous.
Le football à la une ce matin avec les matchs interclubs de la CAF qui ont repris leurs droits.
Oui, les phases préliminaires ont débuté avec les matchs allés du premier tour. Et en Ligue des Champions, belle performance des deux clubs nigériens, tous vainqueurs. Renault Star 2-1 contre Asfa du Maroc et Enugu Rangers 1-0 sur le terrain des Comoriens de Silimanjou. Autre victoire en déplacement, celle des Ghanéens de Samatès 1-0 chez les Camerounais de Vitoria de Lembe et des Marocains du Raja de Casablanca à Niamey face à la garde nationale. Pour le reste, les Togolais d'Asco de Kara ont ramené un bon nul de leur déplacement 2-2 chez les Équato-Guinéens de Deportivo Mongomo.
On note également plusieurs matchs nuls avec peu de buts marqués.
Et c'est le cas du match Stade d'Abidjan-Tinguette du Sénégal, score 1-0. Même résultat pour le second représentant ivoirien, le FC San Pedro, en déplacement chez les Sierra Leonais de Borangès. Pas de vainqueur non plus, mais 0-0 entre les Resta de Bangui et le Djoliba de Bamako. C'est le score qui a sanctionné le match Inzaghi Platinum Stade du Zimbabwe, Maniema Union de la RDC. Nul blanc également entre les Burkinabés de l'Estouane et les Béninois de Coton FC de Ouida.
Le second représentant béninois, Dagger FC, a aussi ramené un nul de son déplacement au Nigeria en Coupe de la Confédération.
Le score 1-0 réalisé par l'équipe d'Aplahui, Dagger FC, face aux Nigériens de Warriors El Kanemi. Des scores nuls aussi ont été enregistrés dans ce premier tour aller de la Coupe CAF, notamment le 0-0 entre les Marocains de Touaga et le Racing Club d'Abidjan. Le Yafia de Conakry, accroché 1-1 à domicile par les Burkinabés de l'Étoile Filante, tout comme les Togolais de l'ASCK 2-2 face aux Nigériens de l'Asfan. Et puis, notons la victoire en déplacement 1-0 de Djaraf du Sénégal chez les East End Lions de la Sierra Leone.
Et enfin, du basketball avec le tournoi de pré-qualification pour la Coupe du Monde féminine au Mexique et au Rwanda.
Et ça commence ce lundi pour prendre fin le dimanche prochain. Et l'un des représentants africains, le Mali, s'est préparé pour la circonstance avec 2 matchs amicaux. L'objectif étant de passer cette étape mexicaine. On retrouve à Bamako notre correspondant Siaka Traoré.
Les 2 matchs ont tourné à l'avantage du Mali. Lors du premier match joué le vendredi 9 août, les dames du Mali ont remporté la partie par le score de 90 points à 87. Lors du deuxième match joué le dimanche 11 août, les dames du Rwanda ont été encore battues par leurs homologues du Mali, score 79 points à 91. Deux rencontres amicales que le sélectionneur du Mali juge d'un test grandeur nature en attendant le tournoi lui-même. En ce qui concerne les 20 basketteuses qui ont pris part aux 2 matchs amicaux, dont le sélectionneur fait allusion, 12 ont été retenus pour représenter le Mali à Mexico. Ajoutons enfin que ce sont 16 équipes réparties en 4 groupes de 4 équipes chacun. Le Mali hérite du groupe A avec la Corée du Sud, la République tchèque et le Venezuela. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Au Mexico, les Maliennes évolueront dans la poule A en compagnie des Sud-Coréennes, de la République tchèque et du Venezuela.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouedraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Les pluies qui se sont abattues sur la capitale malienne toute la journée du samedi ont fait d'énormes dégâts, notamment dans la commune 6. 24 heures après, dans le quartier de Missabougou, de nombreuses familles continuent à réparer les dommages causés par les eaux. Le reportage est de Mohamed Danyoko.
C'est très difficilement que Kadija Degoga parvient à rejoindre sa chambre et ses effets, du moins ce qu'il en reste. Elle et sa famille font partie des nombreuses victimes des inondations du quartier de Missabougou le samedi dernier. Étant au marché, quand il a commencé à pleuvoir, il a fallu la dextérité de son mari, revenu très vite de son chantier, pour sauver la vie des enfants qui sont pris au piège par les eaux.
J'ai appelé mon mari qui est rentré très vite. C'est à l'aide des caisses de bananes qu'il a transporté les enfants sur les eaux qui étaient déjà montées pour les mettre à l'abri au bord du goudron.
Tous les habits mouillés, certains emportés par les eaux, d'autres en train de sécher au soleil en même temps que le courant et les livres d'un coup, ce sont les pieds dans l'eau et le regard inquiet que cette famille a veillé, craignant d'être à nouveau surpris par les eaux.
Nous n'avons pas d'habits à nous mettre. Tout est mouillé. C'est comme ça que nous avons passé la nuit, les pieds dans l'eau. Nous sommes ici depuis un an, mais même ceux qui sont ici depuis 30 ans disent n'avoir jamais vu une telle montée des eaux.
Non loin, la famille Traoré aussi a vécu la même scène. Ce matin, tout ce qui était dans les maisons se trouve entreposé dans la cour en attendant de faire le ménage. Korotumu Traoré, sinistre.
C'est ma sœur qui a tiré mon enfant des eaux. Nous avons quitté la maison pour trouver refuge ailleurs. Les hommes qui sont restés sur place ont pu sauver les céréales. Sinon, les eaux ont porté beaucoup de choses.
Pour les autochtones qui disent vivre ce calvaire depuis plusieurs années, la solution serait de faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement de plus de 7 quartiers qui transitent par le canal avant d'être déversées dans le fleuve. Siaka Traoré, conseiller du chef de village. Il faut aller au-delà de ce collecteur et faire carrément un pont qui va permettre l'écoulement facile des eaux de grande quantité. Sinon, ce seul canal ne peut pas évacuer correctement les eaux et il y aura toujours des inondations ici. Pour d'autres témoins, le problème serait dû aux nombreuses constructions illégales qui obstruent le passage de l'eau de ces inondations dans ce quartier de la commune 6 du district de Bamako. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire voisine, les déguerpissements de population dans les zones à risque d'Abidjan continuent de faire couler beaucoup d'encre. La semaine dernière, l'ONG Amnesty International a fait une sortie pour interpeller le gouvernement sur cette pratique. Elle plaide pour qu'il y ait un dédommagement des populations impactées. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenio.
Malgré leur détermination, les habitants d'Adjamé n'ont pas pu retenir les bulldozers venus pour casser leur maison. Des scènes de violence se sont produites entre les jeunes de la commune et des policiers, créant un véritable désordre urbain. C'est dans ce contexte que l'ONG Amnesty International a fait un communiqué pour interpeller les pouvoirs publics sur la situation. Koku Hervé, directeur exécutif d'Amnesty International Côte d'Ivoire.
Les autorités ont évoqué des risques d'inondation pour expliquer les démolitions massives des quartiers et l'expulsion de ses habitants. Quelles que soient les raisons évoquées, il lui a fallu une concertation préalable avec les populations concernées, un préavis suffisant avant les démolitions, ainsi que des indemnisations justes et ou des solutions de relogement. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, seules quelques familles ont été relogées ou indemnisées.
Des dizaines de milliers de personnes sont expulsées de force depuis janvier 2024, selon l'ONG humanitaire. Le quartier populaire de Yopougon est l'une des communes à avoir été le plus touchée par ces déguerpissements. Sekou Sila, habitant de la commune de Yopougon.
Lorsque l'État de Côte d'Ivoire dit qu'il faut sauver des vies, pour sauver des vies, il faut déguerpir ces populations. Mais quand on les déguerpit, on ne pense pas à leur réinstallation. On ne leur donne pas des mesures d'accompagnement. Nous pensons qu'on vient encore les tuer.
Ces derniers mois, le gouvernement ivoirien a tenté d'humaniser les opérations de déguerpissement. Mais le phénomène persiste toujours. Le dernier cas en date était au mois de juillet dans la commune d'Adjamé Village. Face à cette pression gouvernementale, certaines populations qui ont déjà reçu une mise en demeure ne savent plus quoi faire. Diara Ibrahima, habitant de la commune d'Atekoubé.
Bon, ils sont venus que ces zones à risque vont casser le quartier. Bon, quand ils sont venus me poser des questions. Pourquoi vous êtes ici? Quand il pleut, le coin peut couler. Donc moi, je leur ai dit, non, nous... Si vous dites qu'on a qu'à quitter, on peut quitter, il n'y a pas de problème. Mais il faut que donc vous devrez nous dédommager. Nous sommes les pères de famille. Moi, comme ça, je suis malade. Je ne fais plus le travail. J'encaisse le loyer pour nourrir la famille. Maintenant, si vous venez demain, comment pour dire qu'on a qu'à quitter, qu'on ne va pas dédommager. Ah, là, ça ne va pas nous arranger.
Ce décarpissement en masse n'a pas manqué d'interpeller les professionnels de la construction à Abidjan. Certains estiment que l'État doit être un peu plus indulgent dans les opérations de dégarpissement, mais ils font appel également à la responsabilité des populations qui construisent dans des zones à risque. Jusqu'à présent, le nombre de personnes et de propriétés touchées par les démolitions n'est pas connu, car les autorités n'ont pas procédé à un recensement systématique dans chaque quartier. Selon des données des autorités locales, 1199 familles et 203 propriétaires du quartier Jesco et 600 familles du quartier Abattoir ont perdu leur maison. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, certaines règles de guerre sont encore violées, notamment dans la lutte contre Boko Haram et le conflit qui oppose les forces régulières aux groupes armés depuis 2016. Dans les deux régions anglophones du pays, des informations fournies par les responsables de l'armée au cours des communications relatives aux festivités des 75 ans des conventions de guerre de Genève, justement, de Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jelontap.
Les responsables du ministère de la Défense ont admis des cas de violation des règles de droit international humanitaire dans les conflits contre Boko Haram et en zone anglophone. Des propos tenus lors des communications sur la mise en œuvre au Cameroun des conventions de guerre du 12 août 1949. Colonel Narcisse Pierondi, vice-président du tribunal militaire de Yaoundé.
Lorsqu'ils réussissent à mettre la main sur un militaire, ils ne vont pas toujours le considérer comme un prisonnier de guerre. Pour lui, pour eux, c'est un ennemi qu'il faut décapiter. Il y a des militaires, qu'il s'agisse des militaires déployés sur le théâtre, sur le plan national, ou des militaires déployés à l'international, qui font l'objet de poursuites pour avoir violé certaines règles de conduite pendant les opérations.
Professeur Alain Didier Olinga, conseiller technique du ministre de la Défense, soutient que le Cameroun a renforcé son dispositif répressif contre les violations du droit international humanitaire.
La justice militaire est un peu aussi comme un bataillon judiciaire en termes de traque et de répression sérieuse des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des actes de terrorisme. Autant il y a une répression forte des soldats indélicats, autant il y a pu y avoir des attitudes quelque peu équivoques vis-à-vis des personnes dont on pouvait avoir des éléments assez précis sur leur implication dans la commission d'un certain nombre d'infractions.
Mais les parties en conflit ont parfois émis des réserves sur le principe de neutralité du Comité international de la Croix-Rouge sur la question du respect des droits internationaux humanitaires. Stéphane Bonami, chef de la délégation régionale du CICR pour l'Afrique centrale, basée au Cameroun.
Qu'il y ait des problèmes, c'est normal. Il faut sans cesse, du coup, expliquer qu'est-ce que la neutralité veut dire et surtout éviter de tomber ou de faire croire que la neutralité est une distance que nous prenons pour rester passif. La neutralité est un principe qui permet au CICR de prendre activement parti envers et pour les populations qui sont vulnérables durant les conflits armés.
Le gouvernement affirme que les forces de défense et de sécurité sont en permanence formées au droit international humanitaire. Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice.
La chaîne de commandement militaire est sensibilisée au respect des règles d'engagement et des principes gouvernant la guerre. Le gouvernement de la République du Cameroun reconnaît les difficultés dans la mise en œuvre de ce droit par l'occurrence d'incidents isolés, d'actes condamnés et réprimés par la loi.
Au sujet de la qualification du conflit en zone anglophone, les autorités militaires campent sur leur position. Pour elles, l'armée fait face à un groupe terroriste et non à une tension interne. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Au Tchad, une rencontre interministérielle pour l'opérationnalisation de la brigade mixte dans la zone CEMAC s'est tenue la semaine dernière en N'Djamena. Les responsables gouvernementaux et d'autres acteurs stratégiques de la CEMAC ont finalisé les modalités de la mise en place de cette brigade communautaire pour la sécurité et la stabilité dans la sous-région de N'Djamena. Le reportage de notre correspondant André Kodmajinga.
Décidée en juin dernier à Bangui, la brigade mixte de la zone CEMAC vise à accélérer le processus d'intégration qui est plombé depuis des années par la difficulté d'adopter les textes relatifs à la libre circulation des biens et des personnes. Cette brigade communautaire inter-État qui sera constituée des démembrements de 6 pays membres aura également pour mission de rendre fluides les transits et les commerces. Mungu Ngabosili est le commissaire chargé du développement du marché de la commission CEMAC.
Les échanges intracommunautaires dans la CEMAC ont un taux qui oscille péniblement entre 3 et 5%, quand dans les autres communautés économiques régionales d'Afrique, le taux de commerce intracommunautaire est bien souvent au-dessus des 20%. À l'origine de cette situation déplorable, mais pas que, de nombreuses pratiques qu'il est convenu d'appeler anormales, dont un nombre excessivement élevé de barrières routières. 124 sur le corridor Djamena-Douala, des barrières non tarifaires et d'abus divers dont sont victimes les citoyens communautaires sur les différents axes routiers reliant nos États.
À cause des multiples tracasseries que subissent les opérateurs économiques qui empruntent le corridor Djamena-Douala et les autres axes routiers de la sous-région, a reconnu le ministre tchadien en charge de la sécurité publique, Mahamat Sharfadine Margui.
Ces multiples tracasseries sont occasionnées souvent par les fonctionnaires des forces de sécurité en poste aux frontières et le long des axes routiers en violation des textes nationaux, mais aussi et surtout des directives communautaires. En tant que chef du département de la sécurité publique, je m'engage résolument à tout mettre en œuvre pour trouver rapidement une issue honorable face à ces pratiques qui ternissent l'image des forces de défense.
Pour Robert Wilson, commissaire divisionnaire et directeur de la coopération policière de la libre circulation dans la zone CEMAC, cette brigade va s'atteler à éliminer les pratiques anormales identifiées dans les corridors pour non seulement accomplir pleinement l'intégration des pays membres, mais aussi améliorer les activités de transport afin de redynamiser les échanges dans la sous-région.
Il y a énormément de tracasseries le long des routes et que cela a une incidence sur l'économie de la région, une incidence sur les finances de la région et même au niveau du citoyen ordinaire qui n'a pas la possibilité de pouvoir bénéficier pleinement de ce droit. Et donc, la brigade vient justement fluidifier la circulation, fluidifier le commerce, relever le taux des échanges intra-commerciaux entre les pays. Parce que la brigade ne va pas manipuler les ressources, la brigade vient plutôt redynamiser l'économie en donnant la possibilité aux commerçants de pouvoir faire de bonnes affaires dans n'importe quel pays au sein de la communauté.
Cette brigade doit être opérationnel à partir du premier semestre de 2025 et sera placé sous l'autorité du secrétariat permanent du comité de chef de la police d'Afrique centrale. André Kodumajinga, N'Djamena, pour VOA Afrique.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yakuba Ouedraogo, Lionel Gaïma à la réalisation. Ainsi va le monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de VOAfrique.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VO.